Alors, je vais être un petit peu polémique avec une petite question ou une petite réflexion. Peut-être après cela, je vais voir des visages me dire mais qui est cette personne qui vient là pour la première fois et il dit des choses ou voilà. Si je vous dis, vous allez faire des œuvres plus grandes que Jésus, qu'est-ce que vous allez répondre? Ah, quelqu'un qui dit que Jésus l'a dit. Ben dis donc, est-ce que tu sais, on se tutoie, hein, ça ne vous dérange pas, hein, d'accord. On est frères et sœurs, voilà. Mais est-ce que tu sais où Jésus a dit cela, quel contexte? C'est pas loin, effectivement, ouais. C'est un moment, enfin d'ailleurs. Hier, vous avez eu le spectacle de Pâques, et c'est juste avant ce moment si important dans le ministère de Jésus, juste avant sa mise à mort. C'est juste au cours justement de ce repas de Pâques que Jésus va faire aura cette phrase très étonnante qu'on va lire, donc qui se trouve dans Jean 14, verset 12. Donc, notre frère, il a presque dit le verset. Il y a voilà, d'autres choses aussi. Donc, Jean 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Ah, mais je me suis trompé finalement. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il fera lui-même, on fera nous-mêmes des œuvres qu'il fait. C'est déjà mieux quand même, hein. Ah, excusez-moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout là. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Alors là, ça, c'est vraiment étonnant comme verset. Alors, je ne sais pas si vous savez, cette année pour la Fédération Baptiste, le thème. Est-ce que vous connaissez le thème de la Fédération Baptiste? Pas trop? On devrait. Alors ça, c'était l'année dernière, ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu dans cette thématique, mais il y a un thème spécifique pour cette année.
L'année est encore jeune.
L'année est encore jeune, il y a encore le temps. Vous êtes excusés, ça va. Vous allez se dire, mais c'est un piège, là, ce que je fais. Après, je vais dire aux instances. Le thème est tout simple, c'est construire l'Église ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, quand on dit on va faire des œuvres plus grandes que Jésus, je ne sais pas, je pense pas que ça fait un peu bizarre, hein? Je vais faire des œuvres plus grandes que Jésus, ça sonne pas très bien avec construire l'Église ensemble. Ça fait un peu comme le gars un peu perso, il se dit, moi, un peu le politicien, quoi, hein, moi je ferais ça, l'autre avant c'était nul. Bon, c'est pas ce que dit le verset, hein, attention, et c'est pas ce que Jésus veut dire. En plus, c'est lui-même qui dit que c'est nous qui allons faire des œuvres plus grandes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même, on peut dire, voilà, on peut sortir ce verset comme cela, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'expliquer, n'est-ce pas? Alors, est-ce que construire l'Église ensemble avec ce verset, eh bien, vous allez voir que finalement, ça rentre bien dans ce thème. Je vais vous expliquer. Déjà, il faudrait comprendre, mais qu'est-ce que c'est ces œuvres que Jésus a fait? Déjà, on va comprendre, mais quelles sont les œuvres de Jésus? Ça nous aidera déjà peut-être. Mais bon, ça va être compliqué, hein, quand même. Alors, les œuvres de Jésus, si on regarde les évangiles, on a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles dans les évangiles qui sont relatés. Donc, ça a une place très importante dans le ministère de Jésus. Alors. Quel est le but des miracles? Alors, il me semble, si on lit un petit peu la parole de Dieu, on voit que ça permet, premièrement, je pense, d'attester que Jésus, eh ben, c'est bien celui qui était attendu, c'est bien le Messie. Celui qu'on attendait depuis tant de temps, qui a été promis depuis tant de temps qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans des livres dans l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas que ça, des miracles. Les miracles, il me semble aussi, mais tout simplement, c'est pour faire du bien. Et il dit lui-même, Jésus, il dit qu'il n'est pas là pour les bien portants. Voilà, ça explique un petit peu, voilà son ministère, il n'est pas là pour les bien portants. Et donc, à part ces miracles, par les guérisons, finalement, il montre quelques fruits, il montre les premiers fruits de cette nouvelle création à venir. Parce que vous savez, on n'est pas destiné à simplement ici. Nous avons la vie éternelle ici. Quand on place la confiance en Jésus, nous avons la vie éternelle. Eh bien, Jésus, en faisant ces miracles, il montre aussi les premiers fruits de cette nouvelle création qui va venir. Puis troisièmement, je pense, tout simplement, il est là, il montre par cela qu'il est là pour les rejeter. Et à cette époque surtout, mais c'est valable pour aujourd'hui, mais il est là dans son ministère, là où personne n'est. Et d'ailleurs, où personne n'a envie d'être, avec les mendiants, avec les lépreux. Et les lépreux, c'est crade quand même. Et pour ceux qui étaient du peuple, celui qui sont du peuple de Dieu, les Juifs, c'était important de prendre des distances avec des personnes comme cela. Eh bien, Jésus, lui, non. Il est là spécialement pour ces personnes. Voilà. Là, on a quelques éléments des œuvres de Jésus. Il montre que face au péché, il y a quand même un espoir. Jésus guérit. Il y a cet espoir. Mais alors, nous, qu'est-ce que nous faisons avec toute cette histoire? Qu'est-ce que nous devons faire? Bien, je vous propose de voir quand même un petit peu le contexte de ce verset 12 de Jean 14. Parce qu'on peut sortir juste ce verset-là, mais bon, je pense que ce qui pourra nous aider, c'est de voir dans quel contexte on se trouve. Eh bien, je vous ai dit un petit peu que ça se passait lors d'un repas, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Alors, on va lire ce début du repas. Et donc, ça se trouve en Jean 13, les premiers versets. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible, hein, mais je ne sais pas s'il y a des Bibles quelque part. Je sais que maintenant, il y a aussi les smartphones qui aident pour cela. Mais ça vous permettra de peut-être mieux suivre. Alors, je vais commencer par ce début du repas. Donc, ça se trouve en Jean 13, versets 1 à 5. Juste pour voir le contexte. Voilà, comme je l'ai dit, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. Vous vous rappelez, hein, on parlait aussi de la question du Père, hein, dans le verset 12. Juste avant, juste avant, il savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Ah, alors c'est quoi cette marque suprême de son amour pour eux? C'était au cours du repas de la Pâque. Et déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Donc ce repas n'est pas très cool, hein, quand même, hein, je trouve. Bon. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Ah, il répète encore la même chose que le verset 1. Il doit retourner auprès du Père. Non, ça doit être important, je pense. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement. Bon, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il va faire la cuisine? C'est un peu étonnant, on est au cours du repas quand même. Bon, normalement, en plus c'est Jésus, il y a certainement des personnes qui peuvent le servir et tout. Bon, lui, il enlève son vêtement et prit une serviette de lin et le noua autour de la taille. On dirait qu'il va faire cuistot, là, non? Il est en train de se préparer pour pas être trop sali, là. Alors, on va voir. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine. Ah, je me suis trompé. Je crois qu'il est en train de faire la vaisselle, finalement. Mais c'est bizarre, on fait pas la vaisselle avant, oui, au milieu du repas. On fait ça à la fin. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Eh bien, dis donc, hein. Ça, c'est vraiment étonnant. Alors, vous savez, c'était assez courant quand même, hein, de laver les pieds. Mais quand même, ce qui est très étonnant, c'est que ce soit Jésus qui le fasse. En général, ce sont les esclaves, les servantes. Là, c'est quand même très bizarre ce qu'il fait là. Bon, il est dit, il voulait montrer une marque suprême de son amour pour eux. Voilà. Et donc, il fait cela. Vous savez, c'est pas les mêmes pieds qu'on a aujourd'hui. Hein. Nous, on a des chaussures. Bon, c'est vrai, il pleut là, donc on a peut-être les pieds sales, mais je crois pas. Avec nos chaussures, ça va à peu près. À l'époque, avec tout le sable et tout, c'était quand même quelque chose, hein, nettoyer les pieds. Voilà, donc là on a un contexte. On se trouve au même moment, hein, au cours du repas, où il va dire plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont... c'est un repas qui est très chargé. Hein. C'est avec beaucoup de tension, je pense aussi. C'est un repas assez spécial. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cela, de cette attitude que Jésus a, et puis après des enseignements qu'il va donner au cours de ce repas? Déjà, on voit cette attitude d'humilité, hein, cette marque suprême d'amour. Il veut montrer l'exemple. Il montre l'exemple, mais il le fait du coup vraiment, hein, laver les pieds. Et voilà, il fait son enseignement, et après il parle de ses œuvres qu'on peut faire, et que même il dit qu'on fera même de façon plus grande. Alors, quel est ce lien peut-être qu'on peut faire entre cette attitude qu'il a au début du repas et ce verset 12 du chapitre 14 où il donne cet enseignement? On va voir cela. Alors, quand même, il y a quelque chose qui me taraude un petit peu dans la tête, c'est quand on parle de plus grand, des œuvres plus grandes, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire plus grand que ressusciter des morts. Je ne sais pas si vous connaissez les évangiles, mais il y a un moment donné, il y a Jésus qui ressuscite un mort. Il s'agit de Lazare. Bon, vous êtes d'accord avec moi, il est quand même difficile de faire plus grand que ressusciter des morts. Bon. Mais j'ai envie, avec vous, de réfléchir ensemble, quel enseignement Jésus a vraiment voulu montrer au cours de ce repas. Et notamment avec ce lavement des pieds qui a lieu au début du repas. Eh bien, moi, je pense qu'il a aussi voulu montrer qu'on ne peut pas séparer notre attitude avec des œuvres telles que, qu'est-ce qu'il a fait, les miracles, les guérisons. On ne peut pas séparer les deux. Il y a cette attitude, et puis il y a des œuvres qui se font. Jésus, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il y avait aussi Judas. Jésus lave aussi les pieds de Judas. Judas, qui va être la personne, quand même, je suis désolé de dire, mais c'est quand même lui qui va le mettre à mort. Enfin, qui va commencer ce processus de mise à mort, hein, qui va le dénoncer. Eh ben non, Jésus fait cette attitude envers Judas de laver les pieds. Jésus a cet amour un tel amour pour les autres qu'il est même capable de aimer Judas, qui pourtant va faire ce qu'il y a de pire. Il est capable d'aimer ce meurtrier qui est Judas, son propre meurtrier. Tellement qu'il se met à ses pieds pour le laver. Dans ce repas, on voit aussi des versets qui m'ont un petit peu marqué et qui vont bien avec ce que je viens de dire. On le trouve donc toujours au cours du repas, c'est le chapitre 13, verset 34, puis sera redit encore au chapitre 15, verset 12, un peu d'autre manière, mais « Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. » Vous avez compris, hein? Jésus montre l'exemple. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. Jésus qui va laver les pieds des disciples et même être capable de laver les pieds de Judas. Comment nous pouvons avoir cet amour? Être disponible comme Jésus était disponible pour ses disciples, pour les autres, comme j'ai dit aussi, les mendiants et tout cela. Comment nous pouvons être disponibles? Nous pouvons avoir ce même amour, être capable d'entretenir cette relation saine, de faire attention à ceux qui nous entourent. Eh bien, je me suis dit, tiens, dans l'Église, Dieu a voulu qu'il y ait une Église. Et Dieu a voulu qu'il y ait cela. Et je me suis dit, mais peut-être que l'Église serait ce lieu où on pourrait apprendre à nous aimer les uns les autres. Je me suis dit, peut-être que c'est ça. Peut-être que la mission de Dieu, c'est aussi ça. Construire l'Église ensemble serait ça, apprendre à nous aimer les uns les autres et à pouvoir transmettre cet amour aussi à ceux qui nous entourent, à nos voisins qui sont autour, et puis un peu partout. Alors est-ce que l'Église serait ce lieu d'apprentissage? Pour pouvoir, on apprendrait ici, pour pouvoir mieux vivre aussi à l'extérieur, faire vivre notre témoignage que nous avons reçu au plus profond de nous. Apprendre aussi, ce sera un lieu où on apprend à pardonner, comme Jésus a pardonné. Apprendre à vivre tout simplement dans la société, comme Jésus l'a fait, en étant avec des personnes que personne ne voulait. Il était bien dans la société Jésus. Alors, il y a toujours cette question de, quand on parle de l'Église, comment faire pour vivre dans cette Église? Et pour faire de sorte que nous prions vraiment les uns pour les autres, que nous fassions pas semblant d'être une autre personne, quand on arrive à la porte, on devient, vous savez, comme une auréole qu'on a autour de la tête. Bon, c'est vrai, on le fait pas exprès, mais dès qu'on rentre, c'est la sainteté, On ne peut plus dire des gros mots. Je sais pas, je vous connais pas de toute façon, hein. Je peux dire plein de choses parce que je sais que je vous viserai pas. Je vous connais pas. Et moi, je pense, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des témoignages ici. Justement, ce matin, j'avais voulu aussi parler de cet aspect-là, où quand on dit construire l'Église ensemble, c'est que le culte, c'est pas une personne qui dit on va chanter ça. C'est qu'il y a aussi la place pour tout le monde, pour pouvoir ensemble nous exhorter les uns les autres. Et normalement, la vie d'Église serait me semble, hein, je le vois comme ça en tout cas, un lieu où on devrait pouvoir prier les uns pour les autres et on devrait se lever, on devrait dire « Je voudrais qu'on prie pour... » voilà, je dis un prénom comme ça. Hein, « Je voudrais qu'on prie pour Robert, avec qui j'ai pris un café. » Il y a un Robert ici ? Ah, mais très bien.
Pas encore,
mais il va arriver. « Je voudrais qu'on prie pour Robert, avec qui j'ai pris un café. » voilà, c'est un collègue de bureau. On n'a jamais pu bien parler, mais j'ai eu à cœur de pouvoir lui proposer de prendre un café, de prendre ce moment-là, et nous avons pu prendre ce café. Et voilà, comme vous savez, la vie, on est chrétien, et quand il y a le CV, normalement, ben voilà, ça devrait être tout en haut. On est d'accord. Hein, vous savez que le CV, ça fonctionne comme ça. On met ce qui est le plus important, on le met bien visible, un peu plus gros, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est ça le marketing un petit peu. Mais là, ça serait un peu ça. C'est-à-dire que l'autre sait, c'est pas marteler, hein, dire « Ah, Jésus, il est... » voilà. Non, que l'autre sache, oh là, je ne parle pas très bien français, hein, vous allez voir, hein, mais sache que... Ah, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Olaf, c'est vrai, j'ai tendu la perche là. C'est terrible. Bon.
Ça ne pouvait pas se produire autrement.
Mais voilà, ça devrait. Cette personne où on a pris le café, il devrait au moins savoir. Eh bien, oui, le dimanche, je vais au culte. Eh bien, oui, c'est quelque chose. C'est pas un rituel que je fais ça, mais je veux vivre ma vie tous les jours avec Christ. Et c'est comme ça. C'est ce qui fait ma vie. Et là, il y a ce moment de culte, et puis là, ce moment où on peut dire, voilà, ensemble, on peut prier pour Robert, pour, voilà, c'est un exemple, hein, mais pour que, voilà, on n'est peut-être pas allé très loin dans la conversation, mais on va prier ensemble pour que, voilà, il puisse, par le contact qu'on a tous les jours avec lui. Vous avez compris, hein, c'est un contact, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a pris au hasard dans la rue, et, ah Jésus, et, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on est avec lui, et on peut, voilà, ensemble en église, prier pour cette personne. Et, bon, je sais pas compter combien vous êtes, mais finalement, il devrait avoir 20 témoignages comme ça tous les dimanches, parce qu'on rencontre forcément au moins une personne dans notre semaine, n'est-ce pas? Et on devrait avoir ça. De toute façon, toutes les semaines où on peut prier ensemble pour un tel ou une telle personne, pour qu'il puisse être touché par Christ. Je crois que le rôle de l'Église, c'est aussi cela. Alors, vous avez compris, hein, je vous connais pas, donc je parle des choses comme cela. Peut-être que vous vivez déjà des choses comme cela. Mais bon, ça fait pas de mal de rappeler, de toute façon. N'est-ce pas? Mais vraiment... C'est ça que j'avais à cœur de dire. Donc, je parlais d'un collègue de bureau, mais ça peut être aussi un voisin, une voisine qu'on rencontre tous les jours. Et à un moment donné, on dit, ah, on va prendre un apéro ensemble. Alors ça marche bien, hein. Vous savez, quand il y a, il faut pas abuser de l'alcool, hein. Attention. Hein. Mais un moment convivial, voilà, c'est pour ça, j'étais très content de voir le café là, parce que ça, c'est formidable. Ça, c'est un moment convivial. Eh bien, là aussi, avec notre voisin, notre voisine, voilà, on peut, à un moment donné, toucher des personnes, même très simplement comme cela, en disant, mais tout simplement, mais voilà, ce qui fait de ma vie, mais c'est que je vis pour Christ, quoi. Je vis pour Christ. Et même, Christ est en moi. Bon, là, il faudra tout expliquer, parce qu'ils ne vont peut-être pas comprendre. Mais c'est ça, quand même. C'est quand même ça. Alors... Et je crois que nous n'avons pas le droit de nous contenter de la situation comme cela où on passe des dimanches et que finalement on n'est pas avec cela, ces témoignages. On ne peut pas se contenter de cette situation. On n'a pas le droit, par manque de motivation ou voilà, plein d'autres choses, vous mettez les mots que vous voulez, de ne pas réfléchir, mais comment on va faire pour aussi accueillir nos amis ici, nos amis non chrétiens. Alors bon, on va revenir par rapport aux œuvres du Christ. On a compris quand même, voilà, l'œuvre de Jésus pourrait se résumer un petit peu à cela, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ça que Jésus, finalement, dans sa mission, il a fait quand même. N'est-ce pas? On pourrait résumer comme cela. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut dire par des œuvres plus grandes. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? J'aimerais qu'on lise juste les versets avant, à partir du verset 10, donc dans Jean 14, verset 10. On va essayer de comprendre. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous voyez, on parle encore du Père. Il parle de cette relation qu'il a avec son Père. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. C'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Quelle est cette relation? On va essayer de comprendre. Quelle est cette relation de Jésus qu'il a avec son Père? Vous avez vu au début du chapitre 13, il parle aussi qu'il va rejoindre le Père. N'est-ce pas? Il y a cette préparation. Le Père, eh bien, il est au ciel. Et Jésus, il est sur terre à ce moment-là. Et Jésus, ben, on a compris, c'est Dieu aussi. C'est Dieu venu sur terre. Et donc, c'est ce Dieu qui a bien voulu descendre jusque même au séjour des morts pour nous en retirer. Et oui, c'est ça, le sacrifice de Jésus. Jusqu'à sa mort, il nous a retirés. Il est ressuscité. Il nous a pris avec lui. Si nous plaçons sa confiance en lui. Mais est-ce que Jésus est resté sur terre? Eh bien non, nous comprenons par la suite, mais après la résurrection, eh bien, il était venu pour lui de rejoindre son Père. Et c'est là où il y a la clé de compréhension, il me semble, pour comprendre ce qu'il a voulu dire dans ce verset 12. On le voit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Oh, j'ai pris plus de temps, je pense. Je crois que vous connaissez tous, hein. Je pense que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez pas la référence, mais je me suis trompé. 28, 18 à 20. C'est ça, hein. Je vais pas bien. Tac. Alors, j'ai reçu, donc c'est Jésus qui dit cela, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si vous connaissez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres montre un peu la suite de ce passage-là. Le livre de Actes des Apôtres montre la création de l'Église. Les premiers chrétiens qui font les premières églises, fondent les premières églises. Et on voit un petit peu ben voilà, comment ils ont appliqué cet envoi dans Matthieu 28. Et donc, si je lis Actes 1, verset 8, eh bien, vous aurez un petit peu le même verset, presque, hein. Peut-être ça va vous aider Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir et vous allez dire « Ah, peut-être que j'ai compris. » On va voir. De toute façon, je vais expliquer. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vient en vous et vous dites « Ah, il y a peut-être une clé à comprendre par rapport à ce que Jésus a voulu dire. » Eh bien, on a compris. Jésus est venu sur terre, il a accompli cette mission si incroyable de sa mort et de sa résurrection. Mais pour lui, il était temps de rejoindre son Père. Et parce qu'il a rejoint son Père, qu'il est monté au ciel, qu'il est auprès du Père, il ne nous a pas laissés tout seuls. Le Saint-Esprit qui vient en nous pour les chrétiens. Ce Saint-Esprit qui est finalement, on dit, Dieu qui est venu en nous. Ce n'est plus Dieu qui est venu sur terre, mais il est même en nous, il habite en nous. Eh bien, Saint-Esprit, ce Dieu qui habite en nous, nous a laissé une mission. Et c'est là où on voit que l'œuvre de mission ne s'arrête plus simplement dans Israël. Vous savez, le peuple de Dieu s'était confiné en Israël. Mais Dieu a voulu que chacun d'entre nous, même à Nantes, nous puissions vivre, nous puissions connaître le Christ. Et c'est en cela qu'il a laissé les apôtres d'abord, qu'il a laissé les disciples et puis de génération en génération, nous a laissé cette mission. Vous avez vu, hein? Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est normal. Après, dans toute la Judée, et puis encore plus loin, la Samarie, et là, au bout du monde. Et bien, le bout du monde, c'est peut-être Nantes. Eh bien, je pense que c'est là où on peut comprendre quelle est cette œuvre plus grande qu'il a voulu dire. C'est que parfois, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais on vit un peu comme dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a Jésus, il est ressuscité il y a 2000 ans. C'est waouh, c'est à 2000 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme si c'était dans le passé. Vous savez, on dit waouh, Jésus a ressuscité, mais il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité, l'œuvre du Christ est encore plus énorme. Parce qu'il est retourné auprès du Père et que de génération en génération, les disciples ont fait cette mission si incroyable de faire répandre l'évangile partout dans le monde. Eh bien, oui, Jésus, il est ressuscité. Mais aujourd'hui, son œuvre prend une ampleur tellement encore plus grande. Et c'est pour cela qu'il faut que nous ne vivions plus dans le passé en disant « Il y a 2000 ans, aujourd'hui, c'est cette réalité » de cette mort qui nous est invité aussi de vivre avec lui. Et cette résurrection, eh bien, elle est encore d'actualité. Elle doit vivre en nous, cette résurrection. Dieu vit en nous, par son Saint-Esprit. Je suis perdu dans mes notes. Je suis vraiment perdu. Ah, voilà. Excusez-moi. Et donc, pour expliquer un petit peu Actes des Apôtres, donc je vous ai dit, ça explique un petit peu la création de l'Église. Et on voit effectivement que Acte 2, eh bien, ça commence à Jérusalem. Il y a Saint-Esprit qui arrive et des personnes qui se convertissent. Mais ça ne s'arrête pas là. On a ensuite, un peu plus loin, comme c'est dit hein, dans Acte 1, verset 8, ça va en Judée. Donc c'est un petit peu autour, dans le chapitre 8. Chapitre 10, eh ben, on voit que même l'évangile va chez les non-juifs. Incroyable. L'évangile va chez les non-juifs. Chapitre 13, même dans l'Asie mineure, donc un peu plus loin encore, et la Grèce. Puis là, le chapitre 21, on voit à Rome. Alors là, Rome, le lieu par excellence à l'époque du monde païen. les œuvres plus grandes, oui, c'est répandre l'Évangile. Jésus avait cette mission de montrer l'exemple. Et nous, il nous a confié cette grande mission de pouvoir répandre l'Évangile partout dans le monde. Alors, quel nouveau cap nous avons besoin pour cette église à Nantes? Comme je vous ai dit, je ne vous connais pas encore très bien. Mais je sais que pour la plupart des églises, et c'est pour ça que je vous livre cela, il y a ce problème de sortir de notre cocon. On est bien entre nous, et c'est bien, hein, je suis pas contre du tout cela. Hein. Comme j'ai dit, j'aime bien qu'il y a ce café là. Ce cocon, il est bien. Il est bien à partir du moment que nous sommes capables aussi de pouvoir, chacun d'entre nous, nous sommes des missionnaires à Nantes, dans notre maison, dans notre famille, un petit peu autour, et puis là où on passe beaucoup de temps dans notre travail. Alors, comment l'église de Nantes va obéir à cette parole des œuvres plus grandes? Vous voyez, au début de la prédication, peut-être que vous vous êtes dit, je ne sais pas trop où il va venir, mais vous voyez quelle dimension Jésus veut donner à notre témoignage. Construire l'église ensemble, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez que juste cette phrase-là, elle prend tout un sens. Et j'aimerais vous laisser, parce que l'heure tourne en plus, laisser avec ces derniers versets qui suit justement ce passage-là, donc qui parle des œuvres qu'il accomplira et qui nous feront encore plus grandes, les versets 13 et 14 où il est dit « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, c'est pas mal, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » La gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, au cas où on n'a pas compris, hein. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ma prière, et j'espère que c'est votre prière aussi, c'est de demander que Christ habite en nous et que vraiment nous puissions, dans notre vie quotidienne, et pas seulement dimanche ou dans des réunions, dans notre vie quotidienne, Christ vit vraiment en nous. Parce que, oui, c'est pas comme Jésus, il passe et donc là, on le voit. Christ vit vraiment en nous. Ça veut dire qu'on va marcher là, il est encore là. On va être en voiture. Ça, c'est un bon exemple aussi, hein, la voiture. Hein. Il est encore là. Christ vit vraiment en nous, au quotidien. Et donc, ma prière, c'est que vraiment, nous puissions avoir à cœur cette mission que Jésus nous a donnée. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Alors, voilà, je voulais vous vraiment vous mettre cette parole pour aujourd'hui et j'espère que nous pourrons, que l'Église pourra profiter de ce message et que nous puissions vraiment être portés par ce sujet de aimez-vous les uns les autres. Père éternel, merci pour ton message. Merci parce que tu nous as pas laissés tout seuls, et encore mieux, tu nous appelles à te servir et tu nous permets pas de nous ennuyer. Nous sommes contents, nous sommes fiers de pouvoir avoir cette mission que tu nous as donnée, qui est si grande, si grande. Merci Seigneur d'avoir pris cette responsabilité et de nous avoir montré cet exemple aussi de lavement des pieds. D'avoir donné cet exemple toujours dans ton ministère, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur, dans tes pas. Je te prie pour chacun d'entre nous. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Je te prie pour que tu puisses œuvrer en chacun d'entre nous. Et qu'il n'y ait rien, que s'il y a des obstacles, eh bien qu'ils puissent les mettre entre tes mains. Parce que nous savons que toute prière que nous t'adressons, eh bien, tu vas les réaliser parce que tu habites en nous. Merci Seigneur, que nous puissions passer une bonne semaine
et que tu puisses nous bénir dans ces moments que nous allons passer, qu'ils soient bons ou mauvais, que nous puissions toujours être avec toi, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.
Amen.